Le journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Fanny, merci. 8h10 à Port-au-Prince et à Washington. Même le ministre américain de la Justice n'y croit plus. Bill Barr dédie Donald Trump sur les soupçons de fraude à la présidentielle. On décrypte ça avec notre invité dans un instant. Nous irons aussi aujourd'hui au Mexique. 10 femmes sont assassinées chaque jour en moyenne dans le pays, encore trop dans l'indifférence. Reportage auprès de militantes qui se battent contre l'impunité qui entoure ces crimes. Bienvenue à tous. Hier soir, sur les chaînes d'infos aux États-Unis, CNN en l'occurrence.
Bill Barr bails, deserting Trump on voter fraud.
Bill Barr lâche Trump sur la question des fraudes, explique la journaliste. Le ministre de la Justice, ultra-conservateur, membre de la garde rapprochée du président, un pilier. Bill Barr, donc, qui reconnaît enquête de son ministère à la pluie, qu'à ce stade, je cite, « nous n'avons pas vu de fraude à une échelle susceptible de changer le résultat de la présidentielle et donc de remettre en cause la victoire de Joe Biden ». Bonjour Simon Grivet.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis. Bill Barr, ce n'est pas n'importe qui, c'est un coup dur donc pour Donald Trump.
Oui, c'est un désaveu massif pour lui, hein, puisque le ministre de la Justice, celui qui a la responsabilité la justice fédérale dans l'exécutif états-unien, se retrouve à exprimer clairement ses doutes sur ces accusations de fraude. Hein, pour lui, elles n'existent pas, tout simplement.
Avec une enquête, hein, il explique, de son ministère, malgré tout, les avocats de Donald Trump, hier, on semble-t-il minimiser ses propos. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a guère de chance de voir le président en profiter et tout simplement prendre cette porte de sortie que lui offre son ministre ?
C'est probable, effectivement. Je pense que le président Trump et ses avocats vont continuer à nourrir cette réalité alternative, si on peut s'exprimer ainsi, puisque d'un côté, Trump pense que ça fait plaisir à ses électeurs qui ont envie de croire effectivement qu'il y a eu une fraude. Et puis d'un autre côté, il y a des raisons sonnantes et trébuchantes pour cela, à savoir que la campagne Trump continue à lever des fonds, des millions et des millions de dollars qui sont récoltés pour justement payer ses frais d'avocat, rembourser les dettes de campagne. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison pour le président de reconnaître sa défaite.
Donc s'entêter, ça marche. On a vu Bill Barr hier à la Maison-Blanche. Ça veut dire que on peut s'attendre prochainement à son limogeage ou pas ?
Très difficile à dire. D'un autre côté, on a vu Barr rendre public le fait qu'il poursuivait l'enquête sur l'origine de l'enquête russe. C'est assez difficile à dire, Trump étant souvent un homme politique quand même assez imprévisible. Il reste à peine 50 jours de mandat présidentiel. Donc on va voir ce qui va se passer pour ce ministre de la Justice.
Donald Trump, en tout cas, vous nous dites, Simon Grivet, compte s'entêter, contester encore les résultats de cette élection. Ce qui, semble-t-il, met de plus en plus mal à l'aise le parti républicain en Géorgie, état où l'on votera le 5 janvier pour un second tour au Sénat, élection cruciale pour déterminer la couleur de la Chambre haute. Le responsable en charge de la supervision du processus électoral, Gabriel Sterling, met en garde, écoutons-le.
This has to stop. Cela doit s'arrêter, oui. Luttez pour chaque vote légal. Suivez la procédure établie. Nous vous encourageons. Utilisez votre premier amendement. C'est très bien. Menace de mort, menace physique, insinuation, c'est trop. Je ne peux pas commencer à expliquer le niveau de colère que j'ai en ce moment avec tout cela. Et tous les Américains, tous les Géorgiens, républicains et démocrates, devraient avoir le même niveau de colère. Monsieur le Président, on dirait bien que vous avez perdu l'État de Géorgie. Nous enquêtons et vous avez le droit de saisir les tribunaux. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, et vous devez le dire, c'est d'inspirer les gens à commettre des actes violents. Quelqu'un va être blessé, quelqu'un va se faire tirer dessus, quelqu'un va se faire tuer.
Simon Grivet, quel sens donner à ces propos ?
C'est une réaction compréhensible de la part d'élus locaux et de responsables locaux, souvent républicains. Dans des États perdus par Trump, que ce soit en Arizona ou en Géorgie, qui n'en peuvent plus d'être mis en accusation, d'être traînés dans la boue sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles chaînes d'extrême droite qu'affectionne maintenant Donald Trump et qui reçoivent constamment des menaces sur les réseaux sociaux, sur leurs mails, etc. et qui sont légitimement inquiets. On sait que parmi tous les followers de Trump, il y en a qui sont prêts à tout. On a vu il y a quelques semaines un complot contre le gouverneur du Michigan être déjoué par le FBI. On a vu le soir de l'élection des hommes armés être arrêtés en Pennsylvanie à côté de Philadelphie. Donc la possibilité d'un dérapage est toujours possible et est toujours réelle aux États-Unis. Et pour les élus républicains qui gèrent les élections, ça devient une position vraiment inconfortable.
Et cela n'augure rien de bon, ce climat avant l'élection sénatoriale donc en Géorgie.
Alors effectivement, il y a une double sénatoriale le 5 janvier qui sera probablement très serrée et dans laquelle les deux grands partis ont déjà commencé à investir des millions de dollars avec des déplacements d'hommes politiques à venir, notamment celle du président sortant Trump samedi. Donc ça sera effectivement la fin de cette saison politique extraordinaire qu'on a connue en 2020 aux États-Unis, ce sera le 5 janvier 2021.
Simon Grivet de l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage sur RFI.
Je vous en prie. Au revoir.
Et on reste aux États-Unis avec la presse. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Lueur d'espoir sur le plan économique aux États-Unis. Un groupe d'élus démocrates et républicains a proposé hier un plan pour relancer cette machine économique, grippée bien sûr par la pandémie.
Oui, il s'agit d'un plan de relance de 908 milliards de dollars, précise Politico. Un plan qui ne bénéficie pas pour l'instant du soutien de la Maison-Blanche, mais le simple fait qu'il ait été présenté représente une avancée significative, estime la revue Politique après des mois d'échecs de discussion. Et le fait est qu'il y a urgence car il ne reste plus que quelques jours pour parvenir à un accord avant que les élus ne quittent Washington jusqu'à l'année prochaine.
Mais selon Politico, Romain, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ferait de la résistance.
Et oui, car un tel plan doit non seulement obtenir l'aval des deux chambres du Congrès, mais également celui du président. Et en l'état actuel, selon Mitch McConnell, Donald Trump ne le ratifiera pas. Mitch McConnell dit attendre des directives justement de la Maison Blanche. Pendant ce temps, les discussions avancent. Le camp démocrate a également son propre plan de relance et une décision devrait être prise très rapidement, pronostic Politico.
Et d'autant que 12 millions d'Américains environ sont en passe de perdre leur couverture chômage d'ici fin décembre. Le président élu Joe Biden hier enjoint les élus à voter ce texte.
Le Congrès devrait se rassembler maintenant et adopter un plan d'aide massif pour répondre aux besoins urgents. Mais tout plan d'aide voté pendant cette période de transition ne sera probablement au mieux qu'un début. Mon équipe de transition travaille déjà sur ce que je proposerai au prochain Congrès pour répondre aux multiples crises auxquelles nous faisons face.
Joe Biden, hier, lors de la présentation de sa future équipe économique, le CDC, l'Agence américaine de protection de la santé publique, elle, en revanche, Romain, a déjà son plan de vaccination.
Oui, et comme dans de nombreux autres pays, les États-Unis ciblent en premier les professionnels du secteur de la santé et les résidents des maisons de retraite, précise le New York Times. Il s'agit là de recommandations, précise le quotidien, car aux États-Unis, c'est au gouverneur de chaque État de trancher, même si en matière de santé, ils ont pour habitude de respecter les recommandations. Cette phase de vaccination pourrait débuter dans 2 semaines. Une deuxième vague concernera ensuite ce que l'on appelle les travailleurs essentiels, précise USA Today. Ensuite viendra le tour des adultes ayant des pathologies graves et les plus de 65 ans avant une ultime phase qui concernera le reste de la population.
RFI, la radio del mundo.
Au Venezuela, élection législative dimanche, on vous en parle depuis le début de la semaine sur RFI. Et si l'on en croit les déclarations du président Nicolas Maduro, Romain, en cas de victoire de l'opposition, il pourrait quitter la présidence.
Je le dis au peuple, je laisse mon destin entre vos mains. Si l'opposition remporte à nouveau les élections, je quitte la présidence. Voilà les déclarations du président Nicolas Maduro à 5 jours de la tenue du scrutin, détaillé l'Universal. Des élections boycottées par les principaux partis d'opposition, rappelle la revue colombienne Semana, et qui devraient être logiquement remportées par le PSUV, le Parti Socialiste Unifié, c'est-à-dire la formation au pouvoir. Nicolas Maduro se dit fatigué par les 5 années de gestion de l'Assemblée nationale internationale par l'opposition. Des élections qui pourraient bien être entachées d'irrégularités, estime cette opposition, alors que les menaces se multiplient, détaille Semana. La revue cite notamment les déclarations de Diosdado Cabello, numéro 2 du régime, qui n'a pas hésité lors d'un meeting à menacer les électeurs qui ne se rendraient pas aux urnes dimanche prochain. Pour ceux qui ne votent pas, il n'y aura pas de nourriture, a-t-il notamment lancé.
Et avant le scrutin, Juan Guaido, le chef de file de l'opposition, qui s'est proclamé président par intérim il y a maintenant 2 ans, s'exprimera tout à l'heure devant le Sénat français par vidéoconférence. Écoutez ce qu'il compte dire aux élus français.
Nous allons parler précisément du soutien à la lutte démocratique au Venezuela, expliquer que ce que prétend cette dictature avec ces élections est une fraude. Ils ne veulent qu'usurper le pouvoir législatif. Nous sommes reconnaissants que la France, le président Macron, le Sénat français se préoccupent du soutien à la lutte pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie au Venezuela, à notre lutte actuelle pour trouver une solution au conflit, pour répondre à l'urgence humanitaire et redémocratiser le Venezuela.
Voilà les propos de Juan Guaido. Tout à l'heure, qu'il entend tenir devant les sénateurs français. Juan Guaido, qui était au micro de Marie Normand, envoyée spéciale de RFI au Venezuela, dont les reportages, bien sûr, sont à retrouver sur RFI.fr. On termine, Romain, par le Mexique. Le président Andrés Manuel López Obrador fêtait hier ses 2 ans à la présidence, l'occasion pour lui de faire un bilan à mi-parcours. Bilan qui est ce matin très critiqué dans la presse nationale.
Oui, dans quel monde vit-il ? L'opposition mexicaine estime ce matin à l'unisson que certes le discours du président était respectueux, sans attaque partisane, mais qu'il était surtout totalement détaché de la réalité, comme l'explique un journaliste dans les pages d'Excelsior. Des belles phrases, mais pas de chiffres, alors que ce sont ces derniers qui reflètent la réalité, estimait l'Universal. López Obrador n'a eu de cesse de féliciter son gouvernement pour son travail, accusant les politiques du passé d'être responsables des problèmes actuels. Reste que les chiffres sont mauvais, l'économie est en baisse, la criminalité en hausse, les perspectives économiques négatives et la gestion de la pandémie catastrophique avec plus de 100 000 morts. D'où cette question, dans quel monde vit notre président ?
Et la criminalité au Mexique, justement, merci Romain Lemaresquier, la criminalité au Mexique, voilà des chiffres qui ne mentent pas, ceux des violences contre les femmes. Ils sont vertigineux, ces chiffres. Plus de 1000 féminicides recensés l'an dernier par les autorités. 10 femmes au Mexique sont assassinées chaque jour en moyenne. Des victimes anonymes auxquelles les militantes féministes tentent de redonner une identité, une place, une importance à l'Ixardi.
Maria Salguero, géophysicienne de formation, a compris l'ampleur du fléau. À l'époque, se souvient-elle, les féminicides n'étaient pas encore reconnus comme une crise nationale. On en parlait comme un problème inhérent à certains lieux, comme Ciudad Juárez dans les années 90.
Je me suis rendu compte que le sujet des féminicides ne concernait pas que l'État de Mexico, que ça continuait à Ciudad Juárez, que c'était un problème qui touchait tout le pays. Alors j'ai commencé à faire une carte en me basant sur les faits divers dans la presse.
À l'aide d'un système de mots-clés, la militante passe au peigne fin la presse à sensations, omniprésente au Mexique, pour recenser ses crimes et les placer sur une carte interactive.
Le but, c'était 1. De nommer les victimes pour qu'elles soient autre chose que des chiffres, et 2. Alerter sur l'ampleur du phénomène. La carte te donne le nom de la victime, son âge, son assassin, le mode opératoire et dans quel état son corps a été retrouvé. Les chiffres officiels ne donnent aucune de ces informations. Et je ne parle pas des féminicides, car dans tous ces dossiers de crimes, il y a de nombreux féminicides dissimulés.
Sur sa carte des assassinats de femmes, Maria Salguero a qualifié plus de la moitié comme féminicide en appliquant les critères dictés par la loi mexicaine. Une proportion bien plus large que dans les statistiques officielles. Sur près de 3900 meurtres de femmes recensés l'an dernier, à peine plus d'un quart a été qualifié de féminicide par les autorités. Andrea Medina est avocate. Elle a participé à forger le terme féminicide au Mexique.
La question qu'on s'est posée, c'est quel terme pourrait évoquer aussi l'idée d'impunité sociale et étatique qui entoure ces crimes contre les femmes. Il fallait que le mot inclue cette notion de responsabilité politique, au-delà de simplement nommer la violence subie par les femmes. C'est pour ça que les autorités dépensent une énergie folle pour éviter l'emploi de ce terme et les obligations qui vont avec. Par exemple, les fonctionnaires se retrouvent parfois à falsifier les rapports d'expertise pour ne pas avoir à qualifier tel crime de féminicide. Il ne s'agit plus d'inaction des autorités, mais bien d'une volonté de faire obstacle à ce que dit la loi.
Pendant 5 ans, Maria Salguero a tenu cette carte essentielle qui lui a valu d'être classée par la revue Forbes comme une des femmes les plus puissantes du Mexique. Le mois dernier, elle a été recrutée par l'État de Chihuahua pour son expertise. La carte est en pause, mais l'initiative a fait des émules. À seulement 19 ans, Sofia Valencia, étudiante en biologie, anime un compte Instagram qui recense toutes les femmes assassinées. Elle l'a baptisée « Nos faltas tu, tu manques à l'appel ».
2019 s'est achevé avec un nombre de féminicides record. Je me souviens que j'étais en train d'envoyer des messages de bonne année quand soudain j'ai eu une crise d'anxiété. J'ai commencé à penser que cette année, c'est moi qui pourrais être tuée, ou des proches, ou tant d'autres femmes. Et ce qui me paniquait le plus, c'était de penser que personne ne saurait jamais qui étaient ces femmes disparues. Alors j'ai commencé ce projet, avant tout pour moi, mais l'audience du compte a bien grandi depuis.
Comme Maria, Sofia épluche les faits divers aux photos explicites. Un travail ingrat et traumatisant qu'elle poursuit avec Elda, une autre jeune femme engagée en faveur de cette cause.
J'ai grandi pendant la présidence de Felipe Calderón et sa guerre contre le narcotrafic. À la télévision, c'était des fusillades quotidiennes, des morts. On finit par s'accoutumer malgré soi. Et je te mentirais si je te disais que ce projet n'est pas difficile psychologiquement, mais je sens que c'est en quelque sorte un devoir.
Une tentative supplémentaire de mettre ce sujet à l'agenda politique du pays, alors que la violence ne cesse d'augmenter, et de rendre un nom et une dignité à ces femmes piétinées. Même si, selon l'avocate Andrea Medina,
ces initiatives soulignent les manquements de l'État à ses obligations, comme la justice et le devoir de mémoire. Puisque les autorités ne font pas ce travail, c'est encore la société civile qui doit agir pour que ce droit, qui implique que chaque victime ait un nom, soit respecté. Mais il est capital de continuer à exiger de l'État qu'il remplisse ses fonctions.
Alex Hardy, Mexico, RFI.
7h26 à Mexico.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec Benoît Ferrand. Benoît, une fusée Soyouz a enfin pu décoller hier soir depuis le centre spatial guyanais.
Bonjour. Un soulagement, en effet, pour les équipes du CSG qui finissaient par se demander s'ils n'étaient pas poursuivis par une sorte de malédiction. Un grand soulagement aussi, évidemment, pour le président exécutif d'Ariane Espace, Stéphane Israël.
Nous voulions la lancer début mars et puis nous avons décidé, nous avons eu raison de ne pas le faire car il y avait quelque chose que nous voulions mieux comprendre et maîtriser sur les tâches supérieures frégates. Nous nous sommes entourés pendant ces longs mois de toutes les précautions. Nous avons fait un travail intense avec nos partenaires russes pour être certains que ce soir, ce sera un succès. Et ce soir, le succès est au rendez-vous, donc nous pouvons le savourer tous ensemble. Donc cela a été une année difficile. On sait aussi que malheureusement, Vega a trébuché pour la deuxième fois sur 17 lancements, ce qui est aussi quelque chose qui arrive pour un lanceur jeune. Et maintenant, il faut se tourner de l'avant. Il y a deux très belles missions à réussir d'ici la fin de l'année. On est mobilisé dans cette perspective. Nous avons un lancement qui est prévu normalement le 28 décembre. Cela montre la capacité de la base à s'adapter, à se reconfigurer. Et le fait que les salariés travaillent entre Noël et jour de l'an est quelque chose que, évidemment, nous apprécions beaucoup. Donc oui, rendez-vous le 28 décembre, ici, au Centre spatial guyanais.
Direction la Guadeloupe maintenant, avec aucun décès lié au Covid-19 enregistré la semaine dernière dans le département. Un constat évidemment encourageant, même s'il faut, comme on dit, rester prudent. Julien Babel.
Le taux d'incidence est de 19 cas pour 100 000 habitants. Même tendance pour le taux de positivité. Il diminue à 4,46%, juste en dessous du seuil de vigilance. Le taux de reproduction, lui, est de 0,81. Notez une quarantaine de personnes hospitalisées, dont 3 entrées en réanimation. La directrice de l'ARS adresse 2 bémols. Le premier aux 2 clusters intrafamiliaux observés à Port-Louis, 18 malades. Et le second au taux de positivité à Saint-Martin. Encore en flirt avec les 20%. Du point de vue de l'État, les mesures en vigueur le resteront encore au moins jusqu'à la semaine prochaine. Selon le préfet, elles ont fait la preuve de leur utilité. Il ouvre aussi la porte aux agriculteurs, frappés de plein fouet par l'annulation de Joie Tradition, avec une piste encore à l'étude, l'augmentation du nombre de stands sur les marchés autorisés.
Les chiffres seraient également encourageants concernant l'épidémie en Martinique. Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, et aux équipes de la première. À demain. Nous, on se quitte aussi. Il est 14h et presque 30 minutes ici à Paris. Le rendez-vous d'Haïti et des Amériques à retrouver sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. À demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.